Es ist so schön, etwas zu hören, das wohltut.
C'est si bien d'entendre quelque chose qui fait du bien. Je n'ai pas l'esprit de contradiction, vous le savez tous. Mais il existe vraiment des disciples de Jésus-Christ. Pas des disciples d'un homme quelconque, mais chaque homme de Dieu dans tout le Nouveau Testament a fait référence ou a montré vers Jésus-Christ. Jean déjà s'est écarté lui-même et il a dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean 3:30. Il a directement montré le Seigneur, l'agneau de Dieu, et a dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Jean n'a pas dit, « Suivez-moi. » Et Pierre n'a pas dit non plus, « Suivez-moi. » Mais Jésus a dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. » Et lorsque Paul dit à un endroit, « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Jésus-Christ », alors tous les hommes de Dieu ont appelé à suivre le Seigneur Jésus dans l'obéissance et dans la foi et rien d'autre. Nous ne voulons pas nous occuper de tout le reste, car notre temps est vraiment trop précieux pour cela. Oui, en vérité, ils viennent de l'est et de l'ouest, ils viennent du sud et du nord. La fin n'est pas encore là. Ce sera glorieux. Dieu a de grandes choses en vue pour son peuple. Des pensées précieuses ont déjà été exprimées. Je voudrais juste m'y associer très brièvement. 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'au chapitre 7, le verset 1. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et voici maintenant la raison. Verset 17, 2 Corinthiens 6. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Verset 18. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, et accomplissons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas seulement une pensée précieuse, et cela doit devenir réalité. Et ça a déjà été exprimé comme il est écrit dans de notre Seigneur et Sauveur dans l'Épître aux Hébreux. Dans le chapitre 7 d'Hébreux, au verset 7, il est écrit, pardon, c'est Hébreux 10, verset 7. Il est écrit au verset 7, Hébreux 10. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Verset 8. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Verset 9. Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde comme valable. Écoutez ce qui est dit au verset 10. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. J'espère que nous n'écoutons pas seulement la parole, mais que nous la laissons pénétrer profondément en nous. Tout comme la désobéissance du premier Adam nous a tous entraînés dans la chute, désespérément perdus, de même, notre Seigneur, en tant que second Adam, a accompli par son obéissance la volonté absolue de Dieu ici sur cette terre. Et conformément à la volonté de Dieu, il a donné sa vie en sacrifice afin de pouvoir conduire de nombreux fils à la gloire. Il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il ne pouvait pas faire autrement. Oui, certes, il était un homme, mais il était un homme de Dieu. Il était né pour cela et était venu dans ce monde pour réparer la chute, pour établir le pont, pour combler le fossé et pour nous réconcilier avec Dieu. Verset 7, Hébreux 10. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Verset 8, deuxième partie. Tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Je vais le relire. Puis, il poursuit au verset 9 et 10. Voici, je viens. Il est venu pour un but. Voici, je viens. Et pourquoi est-il venu? Pour faire ta volonté. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous nés de nouveau? Pour rendre témoignage de la vérité. Pour être à la disposition de Dieu. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse à travers nous. Et vous pouvez me regarder, moi ou d'autres personnes, et dire, comment le Dieu Tout-Puissant peut-il accomplir sa volonté sur cette terre à travers des êtres humains faibles? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le vase qui compte, mais le contenu du vase. Et Dieu est capable de créer des vases pour sa gloire. Il est capable de les préparer et de faire de nous des hommes qui font sa volonté. J'ai récemment lu l'histoire de David résumée en un verset. Et dans ce verset, il était dit quelque chose. Je vais peut-être le trouver directement. Il était dit qu'il a obéi à Dieu en tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il l'a fait. Et puis il est souligné une seule chose, à savoir celle avec Uri. Lorsque David a pris la femme d'un autre et a fait en sorte que cet homme meure. Mais tout le reste était conforme à la volonté de Dieu. Et en tant qu'homme, être humain, nous pouvons difficilement comprendre cela lorsque nous lisons la vie d'un tel homme. Vous êtes certainement curieux de savoir où cela se trouve, oui, où se trouve ce verset. Je ne m'en suis plus souvenu, mais si je feuillette un peu, je vais le trouver. C'est en bas à droite dans ma Bible. Mais vous pouvez tous lire les Écritures, ce n'est pas notre sujet pour l'instant. Le thème est « Faire ta volonté est mon plaisir. Je suis venu pour faire ta volonté. » Et nous l'avons clairement entendu. Ces quelques paroles expriment beaucoup de choses. Le Seigneur s'est préparé un corps, et ce corps est l'Église. Et vous verrez, même le repas du Seigneur est utilisé d'une part pour symboliser Christ et d'autre part pour symboliser l'Église. Je peux déjà vous le lire maintenant, même si c'est un peu tôt. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, le repas du Seigneur est décrit de manière ciblée comme le corps du Seigneur, comme l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion avec le sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion avec le sang de Christ? Mais écoutez bien ce qui est écrit dans le verset suivant, verset 17, 1 Corinthiens 10. Puisqu'il y a un seul pain, malgré notre grand nombre, nous formons un seul corps. Un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. J'ai également lu récemment comment une délégation venue de Strasbourg et de Zurich, composée de Zwingli, Luther et de Schwenkfeld, s'étaient réunis pour débattre du repas du Seigneur. Est-ce le corps ou signifie, est-ce que cela signifie le corps et vice-versa? J'aurais vraiment souhaité être présent avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. Cela serait probablement mieux terminé. Mais quoi qu'il en soit, cela a également été exprimé, Il n'est pas possible dans le siècle passé, de voir ce que nous voyons aujourd'hui et d'entendre ce que nous entendons. Aujourd'hui, ce sont les derniers jours. C'est la fin des temps et Dieu a révélé tous les mystères de sa parole et a restauré ce qui n'avait pas été correctement ordonné afin qu'il puisse se réjouir de son peuple. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, c'est seulement dans le lieu que je choisirai et où je mettrai mon nom que j'aurai communion avec vous, selon Deutéronome 12, verset 5. Ça aussi est également important pour le Nouveau Testament. Dieu a mis son nom en Jésus-Christ. Père, garde-les en ton nom que tu m'as donné, selon Jean 17, verset 11. Ce n'est que là où Dieu s'est révélé et a placé son nom que nous pouvons rencontrer Dieu, que nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans le nom de Jésus-Christ. Tout cela nous a été vraiment été donné par la révélation de Dieu. Écoutez encore une fois, afin que nous n'ayons pas à le relire plus tard. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion avec le sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion avec le corps de Christ? Voyez-vous, tout comme Christ a donné son corps, qui était le temple de Dieu, pour nous, a donné sa vie, a versé son sang. Ainsi, il a racheté par Golgotha un corps, une église, par son précieux et saint sang, comme son corps dans lequel il peut habiter, marcher, parler et agir. Croyez-vous tous cela? Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Et nous également, nous ne sommes pas ici seulement pour être ici. Cette pensée aussi était bonne. Nous avons tous un corps terrestre. Mais tous ces corps terrestres doivent maintenant être assemblés en tant que temple de Dieu pour former un seul corps de Christ composé de plusieurs membres. Et nous le lisons également ici, dans la lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12. Verset 12, 1 Corinthiens 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, forment un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Oui, comment ainsi en est-il de Christ? Christ est la tête, nous sommes les membres, et la tête règne sur les membres. La main ne parle pas aux pieds, et les pieds à la main, et ainsi de suite. Mais la tête dirige tout le corps. Si le Christ peut devenir la tête de l'Église. Et si les vrais croyants lui sont soumis et ont été assemblés en un seul corps, alors la chose fonctionnera. Alors nous marcherons dans la même direction. Alors nous crierons, nous croirons comme dit l'Écriture et nous serons un seul cœur et une seule âme. Or, l'Écriture nous montre aussi comment le baptême nous unit dans le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 13. Car par un seul esprit, 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou grecs ou esclaves libres, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mes bien-aimés, nous avons réellement faim et soif de ne pas seulement être nés de nouveau en tant qu'individu pour une espérance vivante, et que Christ ait fait sa demeure dans nos cœurs par la foi. Nous en remercions Dieu de tout cœur pour cela. Mais maintenant, nous voulons être mis au service. Nous ne voulons pas seulement être devenus croyants. Nous ne voulons pas seulement avoir été sauvés. Nous ne voulons pas seulement avoir reçu le pardon. Nous ne voulons pas seulement avoir reçu la vie éternelle. Maintenant, nous voulons être assemblés pour le dernier tour, pour la dernière manifestation de la puissance de Dieu en tant que corps de Christ, afin de pouvoir entrer en fonction. Un seul ne peut rien faire. Nous devons tous, comme le dit l'Écriture, être baptisés en un seul corps. On entend parfois des frères dire qu'ils croient au quintuple ministère. On entend d'autres bien-aimés dire, nous croyons que tous les dons spirituels doivent être présents. Oui, nous le croyons tous de tout cœur. Mais où sont-ils? Où et comment se manifestent-ils? Il ne sert à rien de parler d'un ministère ou d'un quintuple ministère. Nous voulons le voir. Nous voulons en faire l'expérience. Dieu a établi dans l'Assemblée, dans l'Église, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des enseignants et des évangélistes. Nous voulons voir leur ministère, être édifiés par leur ministère, comme il est écrit. Il en va de même pour les dons spirituels. Dieu les a placés dans l'Église. Et je vais vous le lire. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Mais à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'unité commune. Verset 8. Ainsi, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Pas une sagesse humaine, mais une parole de sagesse divine. Par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 13, le dernier verset dit que celui qui a de la sagesse ou de l'intelligence calcule le nombre. Il s'agit aujourd'hui de la sagesse divine, de la connaissance divine. Dieu veut avoir son chemin avec son peuple. À l'époque de la réformation ou des réformateurs, c'était la connaissance et encore la connaissance. Et toute cette connaissance, aussi belle et bonne fut-elle, était nécessaire pour que nous puissions continuer et nous fonder dessus. Mais aujourd'hui, nous ne vivons pas dans le temps de la connaissance. Nous vivons dans l'époque de la révélation de Jésus-Christ, de la révélation de sa parole, de la révélation de ses mystères. Aujourd'hui, c'est une époque complètement différente. Et conformément à l'époque dans laquelle nous vivons, Dieu nous a maintenant donné une vue d'ensemble par grâce. Et bien aimé, si tout ce que nous attendons et que Dieu nous a promis n'est pas encore arrivé, nous sommes néanmoins convaincus à 100% que celui qui a fait la promesse est fidèle et qu'il l'accomplira. naturellement pas à notre, en notre temps, mais en son temps. En ce qui concerne les promesses de Dieu, je voudrais lire un passage de la deuxième épître de Corinthiens au chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18. 2 Corinthiens 1, verset 18. Mais Dieu est garant que notre parole qui vous est adressée n'est pas oui et non. Verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous, par nous, c'est-à-dire par moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, le oui s'est accompli. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen est prononcé par nous pour la gloire de Dieu. Nous sommes simplement une partie du royaume de Dieu. Nous formons le corps du Seigneur. Et comme cela a déjà été exprimé, il est véritablement très important que nous puissions remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait, pour toutes les manifestations de sa grâce, et de ne pas désespérer s'il n'a pas encore fait certaines choses, car peut-être le temps n'est pas encore tout à fait venu. Si je demandais maintenant combien croient que Dieu les a acceptés, que leurs péchés ont été pardonnés, que leur faute a été couverte, et qu'ils sont nés de nouveau pour une vie nouvelle et ont fait une expérience avec Christ, alors tous diraient Amen. Est-ce vrai? Amen. Mais si je demande combien ont déjà été baptisés dans le corps par l'Esprit afin d'assumer une tâche, un ministère et de servir le corps de Christ dans son édification, alors la réponse serait peut-être un peu différente. Mais j'ai aussi une parole des Écritures à ce sujet. Ce n'est pas une excuse, mais une parole du Seigneur Dieu. Zacharie chapitre 10, verset 1. Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez au Seigneur la pluie de l'arrière et de la première saison. Ainsi, à deux moments particuliers, au moment de la pluie de la première saison et au moment de la pluie de l'arrière saison, nous devons demander à Dieu la pluie. Car il est écrit ici, c'est le Seigneur qui crée des nuages d'orage et leur donne des averses pour toutes les végétations des champs et ainsi de suite. Il reprend le verset 1. Demandez au Seigneur la pluie de l'arrière-saison et de la première. Nous aurions formulé la chose exactement à l'inverse. Nous aurions mis la pluie de la première saison en premier et puis devait venir la pluie de l'arrière-saison. Mais Dieu sait exactement ce qu'il fait. Revenons à 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Mais à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'unité commune. Ainsi, verset 8. À l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Verset 9. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, les dons de guérison par le même Esprit. Verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité de langues, à un autre, l'interprétation des langues ou de parler en langue. Écoutez maintenant attentivement ce qui est écrit au verset 11. un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun un don particulier comme il veut. Ce matin, nous avons lu qu'il distribue, qu'il donne, et que des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ici, il nous est dit, à chacun, verset 7, 1 Corinthiens 12, à chacun, pas seulement à quelques-uns, mais à tous. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'unité commune. À chacun. Y a-t-il donc quelqu'un parmi nous qui soit exclu? Si la manifestation est donnée à chacun, et si Dieu distribue à chacun selon son bon plaisir. Alors je pense maintenant à notre bien-aimée sœur qui se demande peut-être elle-même, mais que dois-je faire? Quel don Dieu pourrait-il me donner? Il existe au moins trois dons de l'inspiration divine que les sœurs peuvent également exercer, à savoir la prophétie, le parler en langue et l'interprétation. C'est également le même esprit qui le manifeste. Mais nous ne voulons plus d'action humaine comme substitut. Nous voulons que Dieu se révèle. Et nous croyons qu'il se révélera car il l'a promis. Revenons au passage de 2 Corinthiens chapitre 6 où il est écrit que Dieu veut habiter au milieu de nous et marcher au milieu de nous. Jésus a dit à l'époque ou en son temps, en référence à son corps, il a dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours ». Il parlait de son corps. Aujourd'hui, le thème est le corps de Jésus-Christ, l'Église du Dieu vivant. Dieu veut habiter parmi nous, marcher parmi nous et être notre Dieu. Mais cela est soumis à une condition. Verset 17, 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ou ordonne le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Verset 18. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Il était nécessaire de sortir, de se séparer. Le mot saint, tel qu'il apparaît dans le texte original, a en fait un double sens. Mis à part et consacré, mis à part du monde, consacré au Seigneur, saint pour le Seigneur, une propriété particulière qui existe uniquement pour la gloire de Dieu. Verset 17, 2 Corinthiens 6, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ce n'est peut-être pas tout à fait d'actualité ou satisfaisant pour certains, mais parce que frère Müller a fait cette remarque particulière selon laquelle des personnes sont présentes en ce lieu, écoutent la parole de Dieu, puis parlent d'un huitième messager ou d'un successeur, d'un homme envoyé de Dieu. Alors je ressens une douleur dans mon cœur. Le Seigneur n'avait que sept messagers dans sa main droite. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Pas plus. Il n'y a pas de successeur d'un homme de Dieu quelconque. Il n'y a vraiment que des disciples de Jésus-Christ, des hommes qui marchent à sa suite. Et je pense que cela pourrait être très rapidement lu dans la parole de Dieu. comme ou comment Paul l'a formulé à son époque. Car certains qui comprennent ou qui comprennent simplement mal ce qui a été dit à l'époque s'appuient sur cela. Je ne sais pas vraiment comment il est possible que des déclarations et des enseignements les plus clairs puissent être mal compris. Tout a été présenté de manière si claire, si précise dans les Saintes Écritures, comme cela n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'humanité. Mais celui qui n'est pas satisfait avec cela, celui qui n'est pas satisfait de la vérité révélée, celui-là doit accepter le reproche de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. En nous, il doit avoir un amour divin pour la vérité divine. Un lien, une connexion intime entre nous et la parole de Dieu. Car nous sommes nés de l'amour. Nous avons été engendrés. Dieu nous a aimés. Ainsi, Dieu a tant aimé le monde. Nous ne sommes pas nés de nouveau par hasard, mais par amour, Dieu nous a destinés pour être des fils, ses fils. Si nous, je crois qu'il y a une parole pour cela, ça devrait être dans Éphésiens chapitre 1. D'une certaine manière, le mot amour doit également y figurer. Bien sûr qu'il figure ici, bien sûr. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Car en lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Verset 5, Éphésiens 1. Et nous a prédestinés dans son amour. Écoutez. Et nous a prédestinés dans son amour à être ses fils par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est bien là le point essentiel. Dans le rouleau du livre, il est question de lui. Je suis venu pour faire ta volonté. Qui peut faire sa volonté? Des fils et des filles de Dieu qui ont été élus selon sa volonté avant la fondation du monde, dans l'amour divin, puis destinés à la bénédiction selon la préscience de Dieu. Dieu savait toutes choses. Il savait qui devrait, viendrait croyant et qui ne l'accepterait pas. Ainsi, dans son amour, il a pu prédestiner tout le monde selon le bon plaisir de sa volonté. Puis-je vous demander, combien d'entre vous aiment le Seigneur, aiment sa parole, aiment les vérités divines? Je vous prie, aimez-les, chérissez-les, appréciez-les comme les trésors les plus précieux que l'on garde et que l'on préserve. Je le répète encore une fois, celui qui n'aime pas la vérité divine de la parole, même s'il a entendu la vérité divine, la chose ne marchera pas. Car le concerné ne s'en contentera pas. Il voudra toujours quelque chose de nouveau. Il n'aura pas encore tout à fait compris l'ancien que Dieu a révélé. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Il le fait par amour. Car c'est par amour que Christ a donné sa vie pour nous. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Jérémie 31, verset 3. Combien de passages bibliques pourrions-nous lire à ce sujet? Le temps est toujours contre nous, nous le savons. Mais nous ne sommes pas destinés pour le temps, mais pour l'éternité. Alors résumons. Dieu a un corps sur la terre, une église qui est tout aussi élue que Christ était destiné à mourir pour nous avant la fondation du monde. Je vous le lis également afin que vous sachiez que cela est écrit, à savoir dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 19. 1 Pierre chapitre 1, je lis à partir du verset 18. 1 Pierre 1, verset 18. Vous savez bien que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Verset 19. Mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné déjà avant la fondation du monde, mais il a été révélé jusqu'à la fin des temps pour votre bien. Tout comme nous, en tant qu'Église, en tant qu'épouse, nous avons été élus avant la fondation du monde. Christ a été prédestiné avant la fondation du monde en tant qu'agneau de Dieu qui allait mourir. Dieu savait que l'homme qu'il allait créer tomberait. Et c'est pourquoi il n'y a pas eu de malheur. Dieu n'a pas voulu un homme uniquement à son image, mais aussi avec sa nature. Nous ne pouvons pas non plus entrer dans les détails maintenant. Mais voyez-vous, c'est ainsi. Chez Dieu, tout a été déterminé avant la fondation du monde. Il savait qui croirait et qui ne croirait pas, qui accepterait et qui n'accepterait pas. Et il savait aussi qui aurait l'amour de la vérité et qui ne l'aurait pas. Je peux le dire de tout cœur pour la gloire de Dieu. La vérité divine est devenue précieuse pour moi. J'aime la sainte parole de Dieu comme une vérité pure et révélée. Mais je peux vous dire aussi ce que je déteste. Je déteste toutes les interprétations telles qu'elles ont commencé dans le jardin d'Éden et qui se prolongent jusqu'aujourd'hui. Et plus elles se rapprochent de la vérité, plus elles sont dangereuses. Pour l'Église épouse, les grandes dénominations ne représentent aucun danger. Qui interprète les choses que nous croyons? Non, les dénominations ne le font pas. Mais les gens qui prétendent croire le message, ils interprètent. Ils y ajoutent des choses. Ils lisent des sermons. Mais ils font du message divin leur propre message et ne font que mettre en avant l'homme de Dieu. Depuis le commencement, nous avons fait les choses telles que le Seigneur l'a ordonné. Proclamer la parole et distribuer la nourriture. Et cela demeurera ainsi. Je n'ai rien n'a expliqué et rien n'a interprété. Dieu est son propre interprète. Il veille sur sa parole pour l'accomplir lorsque le temps est venu pour le faire. Et je veux aussi vous dire ceci. La parole du Seigneur n'a jamais causé des divisions et des confusions. Uniquement les interprétations, les explications, les allées et venues dans les maisons, ces révélations privées que l'on garde dans la poche de la veste, ces choses ont causé des difficultés. Combien de fois ai-je souhaité être présent lorsque des gens proclament ceci et cela et invoquent ensuite le nom de l'homme de Dieu? J'aurais très vite alors levé ma main, et j'aurais peut-être même dit, tu mens. Combien de ceux qui se tiennent devant ici, qui prononcent le nom du Seigneur, et prétendent connaître et transmettre le message divin. Combien ont égaré le peuple dans telle ou telle direction. Ce n'est que lorsque tout est ramené à la parole de Dieu et ce que nous disons doit déjà être écrit dans la parole de Dieu. J'ai particulièrement pris à cœur ce point. Je ne voudrais pas prendre un exemple terrestre ou une comparaison avec les sept tonnerres. Rien ne m'a autant pesé que cela. Les différentes directions qui ont vu le jour, et l'une est plus stupide que l'autre. L'une est plus erronée que l'autre. Car chacun veut savoir mieux que les autres. Et l'un dit, « Oh, l'interprétation des tonnerres n'est pas correcte, j'ai la bonne. » Et le troisième dit, « Oh, les deux autres ne sont pas correctes, j'ai la bonne. » Et puis vient le quatrième, « Oh mon Dieu, ils n'ont encore rien compris à ce dont il est question. J'ai la bonne interprétation. » Arrêtez donc, les saintes écritures nous le disent. N'écris pas ce que les sept tonnerres ont dit. Apocalypse 10, verset 4. Est-ce vrai ou non? C'est ce que la sainte parole de Dieu nous dit. Et celui qui dans son cœur résiste contre la parole de Dieu peut fermer cette porte de l'extérieur. Cet endroit n'est pas là pour échanger des pensées confuses. Cet endroit est là pour glorifier le Seigneur, pour prêcher la parole de la croix, pour proclamer les mystères révélés. Mais il n'y a pas de place ici pour tout le reste. Ici, Dieu doit habiter et marcher. Ici, c'est ici que le peuple de Dieu doit être rassemblé, le peuple avec lequel il a conçu l'alliance lors du sacrifice. Et le peuple de Dieu n'est pas là pour être le jouet des différentes doctrines. Le peuple de Dieu doit être enseigné par Dieu, revenir au même pas, être uni en un seul corps, afin que Dieu puisse enfin se révéler. Pouvez-vous dire amen à cela? Amen. Alors n'écoutez personne. Chassez tous ceux qui viennent à vous et dites, si vous voulez écouter la parole de Dieu, elle est proclamée là-bas. Qu'ils viennent tous. Ne vous laissez plus troubler. Parfois, le mal est irréparable. Le Seigneur dit, je veux marcher parmi eux, habiter parmi eux, je veux être leur Dieu et ils seront mon peuple. Bien-aimés, pardonnez-moi, mais le zèle du Seigneur pour la cause de Dieu, pour le peuple de Dieu, me consume. Le Seigneur reviendra très bientôt. Nous ne connaissons pas le moment, mais je ne veux pas avoir à baisser ma tête ce jour-là. Je voudrais pouvoir le regarder et entendre les paroles « Bien fait, entre dans la joie du Seigneur. » Je ne veux pas avoir prêché pour plaire aux hommes, pour gratter, chatouiller un peu leurs oreilles qui démangent. Mais je voudrais avoir prêché ou avoir proclamé la parole de vérité dans une époque où l'on a tourné le dos à la vérité et où on court après des fables jusqu'à la fin. Dieu nous a placés dans cette époque. Il nous a donné sa parole révélée. Et si quelqu'un me demande si je crois que Dieu a envoyé Frère Branham en tant qu'un homme spécial, alors, je ne réponds pas seulement que Dieu l'a envoyé comme un homme spécial, mais comme un homme très spécial, comme un prophète tel qu'il n'y en a probablement jamais existé sur cette terre, un homme envoyé par Dieu. Mais si quelqu'un me demande de prêcher cet homme envoyé de Dieu, alors c'est trop me demander. Je ne peux pas non plus prêcher Paul. Paul était aussi un instrument choisi. Tous les autres de sa génération ne l'était pas. Il était celui qui a vu la colonne de feu, celui qui a entendu la voix du Seigneur, qui a été mandaté. Ce n'était pas Timothée ni des autres. Il en est de même dans cette génération. Mais pensez-vous que Tite ou Philémon se sont promenés en disant « Paul a dit, Paul a dit, Paul a dit » Non, certainement pas. Ils étaient les prédicateurs de la parole. Mais ils ont prêché ce qui avait été révélé à Paul. Amen. Et nous faisons la même chose aujourd'hui. Nous ne sommes pas des perroquets qui répètent n'importe quoi. Nous proclamons la parole originale de notre Dieu. Et j'espère que plus personne n'aura des oreilles qui démangent, mais que tous auront les cœurs qui brûlent. Il y a toujours deux groupes. Les uns veulent toujours entendre quelque chose de nouveau parce qu'ils n'ont pas encore compris l'autre chose. Et les autres, ils veulent entendre et comprendre. Ils entendent et comprennent et leur cœur brûle. Ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Mon cœur brûle chaque fois lorsque le Seigneur nous parle par sa parole. Je vous demande d'aimer le Seigneur et sa parole. Recevez-la de tout votre cœur. Croyez-la et elle deviendra une réalité divine. Dieu aura une église. Il aura un corps sans tache, sans ride. Il y aura une église qui fonctionne, à travers laquelle il pourra agir, dans laquelle il pourra marcher, parler et agir. En tant qu'individu, nous voulons être ajoutés à cet ensemble du corps de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, par la puissance ou par un puissant baptême du Saint-Esprit, le corps est assemblé en une unité divine et fonctionne alors comme une machine bien huilée. Car le Saint-Esprit est aussi l'huile dont nous avons besoin pour être prêts lors du retour du Seigneur, lorsque l'époux viendra, afin de pouvoir que nous puissions aller avec lui dans la gloire. Que Dieu puisse nous bénir et être avec nous tous d'une manière très spéciale. Que sa parole pénètre dans nos cœurs avec une puissance sans précédent et qu'il nous plaise de la chérir, de la garder, de la remuer dans nos cœurs afin qu'elle porte du fruit pour la gloire et la louange du Seigneur. Amen. Amen.